BFM Business présente l'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot, le mag, Laure Closier.
Bonjour à tous et bienvenue dans Happy Boulot le Mag. Cette semaine au menu, on va parler de logistique et de santé, mais pas de coronavirus. On sera avec Nicolas Tunesi, il est le DRH de l'établissement français du sang. Et puis comment embarquer les hommes dans le combat pour l'égalité entre les hommes et les femmes? C'est le sujet qu'on va aborder avec Lucille Desjonquers, elle est chasseuse de tête spécialisée sur la question des COMEX et des comités d'administration. Il y en a un qui fait très attention à sa notation sur Glassdoor, c'est Marc Brua, il travaille chez Squall. Il va nous dire à quel point c'est important aujourd'hui quand on est une entreprise de faire attention à la note sur les réseaux sociaux. Happy Boulot, le mag, c'est parti.
BFM Business, Happy Boulot, le mag, l'exécutif de la semaine.
Et on a pris où aux entreprises publiques dans Happy Boulot le Mag? On avait La Poste la semaine dernière, on est avec l'établissement du sang français avec Nicolas Tunesi. Vous êtes le DRH, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. 10 000 salariés travaillent pour l'établissement du sang. Vous gérez toute l'activité sanguine, alors je ne sais pas si on dit activité sanguine, mais de l'approvisionnement jusqu'à la chaîne. Vous fournissez les hôpitaux, vous êtes responsable absolument de toute la chaîne. 10 000 salariés, 140 emplois différents dans ces 10 000 personnes. Est-ce que c'est une activité de santé ou est-ce que c'est une activité de logistique?
Bonjour d'abord. Je pense que c'est un peu les deux. Mais je vais vous expliquer très très brièvement ce que c'est que l'établissement français du sang. Vous l'avez dit, on a la responsabilité pour faire en sorte que tous nos concitoyens aient des poches de sang pour soigner l'ensemble des malades. Ce qui veut dire qu'on collecte le sang, les donneurs, bénévoles, on le prépare, on le qualifie pour s'assurer que le sang que l'on va ensuite transfuser n'a pas de problématique particulière. Et ensuite, on le délivre aux 1500 établissements de santé qui sont amenés à transfuser. Et donc, tout ça, c'est notre responsabilité. En plus de ça, on assure des analyses de biologie médicale pour le sang des malades, pour s'assurer de donner la bonne poche de sang. Et on est le premier laboratoire de biologie médicale de France, donc avec derrière ça des techniciens de laboratoire. Et en plus de ça, on a également des grosses activités de pointe, de recherche, de médicaments thérapie innovante. Donc tout ça fait un gros volume d'activités présent sur la totalité du territoire français, dans les départements d'outre-mer également. Donc pour mettre tout ça en musique, il faut à la fois des vrais professionnels de santé, mais il faut aussi une logistique, je vais vous rejoindre, avec des vrais professionnels, des fonctions support pour que tout marche parfaitement bien.
72% de femmes dans vos effectifs, ça c'est l'aspect santé qui attire le plus les femmes.
Alors c'est nos métiers, puisque les principaux métiers majoritairement à l'établissement français du sang, ce sont des techniciens de laboratoire, et les personnes qui se forment à ce métier de technicien de laboratoire sont majoritairement des femmes. Les infirmiers, infirmières, on a près de 1200 infirmières à l'EFS, donc très majoritairement des femmes, mais également des médecins, des pharmaciens, certains pour les spécialités biologistes, et là aussi on a une bonne proportion de femmes. Donc c'est les métiers de professionnels de santé que l'on a, qui sont souvent formés, les personnes sont souvent issues dans des formations qui attirent des femmes, qui font qu'on a ce niveau de pourcentage de femmes dans notre activité.
Nous, ici, on parle attractivité. Métier, votre concurrent sur l'attractivité, ce sont les hôpitaux?
Concurrent, j'ai un petit peu de mal à parler de concurrence.
Sur les métiers, lorsque l'on est sur une infirmière, pourquoi elle choisirait l'établissement du sang plutôt qu'un hôpital?
Alors aujourd'hui, les infirmières vont soit effectivement dans les centres hospitaliers, publics ou privés, soit certaines sur des formations plutôt où elles sont auto-entrepreneurs, soit à l'établissement français du sang. Donc on peut dire qu'on a une certaine concurrence sur le marché du travail. Pour autant, qu'est-ce qui fait qu'une infirmière, puisque vous abordez ce métier-là, choisirait l'établissement français du sang plutôt qu'un hôpital? Le premier, c'est que l'activité, même si la technique métier est celle de l'infirmière, on va s'adresser à des donneurs, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas malades. Au contraire, ils sont là pour faire cet acte généreux et citoyen de donner leur sang. Et donc, la technique fait que...
Le public est très différent.
Le public est très différent. Et du coup, la spécialisation que l'infirmière va avoir en arrivant à l'EFS est très différente des spécialisations très nombreuses que vous pouvez avoir dans un centre hospitalier.
Vous êtes une entreprise publique, mais est-ce que vous avez, comme toutes les entreprises privées, une réflexion sur le sens au travail, sur le bien-être, sur la manière dont ça se passe au quotidien?
Alors, le sens au travail, lorsqu'on travaille dans un...
C'est déjà fait.
Pour un service public. De santé publique autour de cette matière qu'est le sang, Je pense que le sens au travail est tout trouvé. En tout cas, on fait en sorte que tous nos collaborateurs soient complètement engagés, et ils le sont.
Mais ça peut être l'évolution de carrière, le sens au travail aussi.
Après, derrière, il y a tout ce qui concourt à la satisfaction au travail. Et pour le coup, le travail sur la satisfaction au travail, pour moi, il y a deux ressorts. D'abord, faire en sorte que nos collaborateurs puissent se sentir acteurs de ce qu'ils font. Alors, acteur, c'est un grand mot, mais ça peut être acteur sur comment fonctionne mon service. Ça peut être acteur sur comment est-ce que je peux travailler, contribuer à la modernisation d'un établissement public. Mais c'est aussi, comme vous l'avez dit, sur des évolutions de carrière. Et là, on a des métiers qui évoluent assez vite, que ce soit, vous citiez par exemple tout à l'heure les infirmières, ou jusqu'à il y a quelques années encore, les infirmières avaient essentiellement des missions de prélever le sang des donneurs. Aujourd'hui, elles font les entretiens préalables au don, c'est-à-dire qu'elles reçoivent les médecins pour s'assurer que les donneurs, pour s'assurer qu'il n'y a pas de problématique particulière pour qu'ils puissent donner leur sang. C'était une activité qui était faite que par des médecins il y a quelques années. Aujourd'hui, ce sont nos infirmières qui peuvent le faire. Et on va encore plus loin aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, sur nos collectes, les infirmières peuvent assurer la totalité de la supervision de ce qui se passe, alors que jusqu'à il y a encore quelques mois, il fallait qu'un médecin soit présent sur place. Donc vous voyez, on enrichit les métiers, et donc du coup, les axes de développement sont extrêmement importants, et ça facilite d'autant plus l'engagement de collaborateurs qui sont de toute façon déjà très engagés de par nos missions.
Et j'imagine qu'il y a un rapport aussi avec l'urgence. Est-ce qu'il y a une formation spécifique au stress ?
Alors, le rapport à l'urgence, tout dépend des secteurs d'activité. Le rapport à l'urgence, il est essentiellement dans nos sites qui délivrent les poches de sang. Où effectivement, là, on a des services qui viennent parce qu'ils ont besoin en urgence de poches de sang. Et là, on a dans nos laboratoires des techniciens de laboratoire qui sont habilités à délivrer ces poches de sang. Et là, on peut avoir la pression de l'urgence. Et là, effectivement, on engage des formations à la gestion du stress pour faire en sorte que les choses se passent du mieux possible et sereinement, puisqu'il n'est bien entendu pas question de faire une erreur sur ces métiers-là.
Vous avez une population, vous, en tant que DRH, à gérer extrêmement différente. On arrive à avoir une vision, une politique ressources humaines globale quand on a autant de cas par cas ?
On y arrive sans trop de difficultés, parce que le maillon commun, c'est le sang et c'est la chaîne transfusionnelle. Donc, d'une manière ou d'une autre, tous nos métiers, vous avez dit qu'ils sont extrêmement nombreux, on a référencié 140 métiers sur l'ensemble de nos spécialités, tous contribuent à cette mission-là. Alors chacun avec sa spécialité, chacun avec son expertise, parce qu'on a un niveau d'excellence qui fait qu'il faut qu'on ait des niveaux d'expertise qui soient importants. Et donc le fait de donner ce sens-là pour tous nos métiers rend les choses assez faciles dans l'engagement et dans la mise en musique de la manière dont ces métiers s'emboîtent les uns avec les autres.
J'ai regardé votre profil LinkedIn. Alors déjà, vous n'avez pas de photo. Ça, c'est
J'en
pas bien
suis
du tout.
Désolé.
Je rappelle qu'un profil LinkedIn qui n'a pas de photo est un faux profil. Donc il faut absolument que vous fassiez quelque chose.
Mais le mien est vrai, mais il y aura une photo bientôt.
Bah alors absolument, il vous faut une photo. Mais surtout, vous n'avez travaillé que dans des entreprises publiques. C'est un choix personnel, vous, en tant que spécialiste des ressources humaines ?
Alors, c'est un choix personnel, et vous avez dit que dans des entreprises publiques, avant d'être DRH de l'établissement français du sang, j'ai travaillé pendant 10 ans sur la fonction RH, sur ce qui s'appelle aujourd'hui l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament. Donc, au-delà de travailler dans des secteurs publics, c'est aussi la santé publique, qui est un moteur très fort. C'est vrai que dans l'engagement, y compris du DRH, c'est d'autant plus fort en termes de moteur d'essayer de faire en sorte de porter des éléments de politique RH, de faire évoluer des process RH pour porter cet engagement au service de missions de santé publique.
Et pourtant, on a l'impression, nous qui traitons plutôt du privé et qui sommes dans une entreprise privée, que vous allez dans un nid à ennui, quoi, dans le service public, qu'on est plus retors au changement, que c'est plus compliqué avec la transformation numérique. Vous, ça vous quoi ? Ça vous excite ? Ça vous intéresse ?
Vous appelez ça un nid à ennui. Moi, j'appelle ça un magnifique levier de motivation. Lorsqu'on travaille sur la digitalisation de toutes les fonctions, je vais vous donner une illustration. Postérieurement à la crise Covid, on a développé très très fortement la possibilité pour les donneurs de sang de prendre rendez-vous par une application. Ça change beaucoup de choses dans le fonctionnement, l'organisation, la logistique et des évolutions métiers de certains de nos métiers qui sont liés à la collecte. Et donc, c'est plus qu'enthousiasmant d'essayer de porter des projets de transformation pour une structure publique comme la nôtre qui se doit d'être excellente dans ce domaine-là. Donc non, au contraire, c'est plus que motivant.
Et vous voyez à un moment aller dans le secteur privé ? C'est pas un appel du pied, hein. Vous fermez aucune porte, dites
peut-être.
Oui, pourquoi pas.
On ferme aucune porte, bien sûr.
C'était une question piège. Est-ce que vous allez avoir un Chief Happiness Officer à l'établissement du sang ?
Non, c'est pas prévu. On a des services de qualité de vie au travail qui sont développés. Et pour le coup, moi, j'ai plutôt une approche dite de l'expérience collaborateur ou l'expérience salariée, c'est-à-dire faire en sorte que les salariés y soient acteurs de ce qu'on fait bouger dans leur quotidien, y compris sur des trajectoires de carrière. Et je pense que c'est par ce canal-là qu'on peut avoir des salariés heureux. Pas besoin, en tout cas à ce stade de ma réflexion, d'avoir des Chief Happy Officer.
Vous recrutez pour 2021 ?
On recrute énormément aujourd'hui. On a plus de 400 postes qui sont ouverts actuellement au recrutement, en particulier des techniciens de laboratoire, des infirmiers, des infirmières, des médecins généralistes ou des médecins et pharmaciens spécialisés en biologie, des biologistes. Il faut savoir que le secteur de la santé a été un peu chamboulé ces derniers mois.
Légèrement, oui.
Et donc ça a chamboulé également le marché du travail sur ces métiers-là. Et on a des besoins très fort pour assurer notre continuité.
Dans le secteur de la santé, aussi sur les fonctions support, où c'est essentiellement médecins, infirmiers, techniciens de laboratoire.
On a aussi des besoins, mais qui sont des besoins plus normaux et récurrents compte tenu de notre turnover sur les fonctions support, mais très fortement sur techniciens, infirmiers, médecins.
On envoie son CV ou on vous envoie un message sur LinkedIn ?
On peut m'envoyer un message sur LinkedIn, mais
vous répondez pas.
Le mieux, j'ai pas dit que je répondais pas, j'ai pas de photo, c'est tout.
Ouais, c'est déjà beaucoup.
Mais par contre, on peut postuler sur le site de recrutement de l'établissement français du sang.
Quand on travaille dans la santé, c'est un CV classique comme un autre, ou aussi ce secteur-là se modernise avec des vidéos, des CV plus originaux, des.
On voit des CV plus originaux, des vidéos. Alors, je vous avoue que les médecins ont plutôt l'habitude d'avoir des CV assez classiques avec des longues pages de publication. Mais en revanche, on a des candidatures de techniciens de laboratoire et d'infirmiers qui sortent de leur école. Il faut savoir qu'on a environ un quart de nos recrutements de moins de 25 ans avec une grosse politique en faveur de l'apprentissage. Donc, on recrute beaucoup de jeunes diplômés, techniciens de laboratoire et infirmiers. Et ces jeunes diplômés-là, ils poussent à avoir des approches de CV moins classiques. Et on voit des choses que je trouve tout à fait intéressantes.
Vous n'êtes pas retort. Vous les lisez et vous les regardez quand même. Merci beaucoup, Nicolas Tunési, d'être venu dans Happy Boulot Le Mag. On vérifiera si votre compte LinkedIn d'ici la semaine prochaine à changer.
Je m'y engage.
Merci, c'est gentil. On va parler des femmes dans un instant.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. Better Together.
Et on fait mieux ensemble. Notre sujet aujourd'hui, comment embarquer les hommes dans le combat de l'égalité. On est avec Lucile Desjonquaire. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes experte du recrutement au sein du cabinet de chasseurs de tête Leaders Associates. Vous êtes la présidente du réseau International Women Forum qui a organisé les assises de la parité. S'il était il y a 15 jours, 3 semaines.
Oui, non, c'est tout récent.
C'est tout récent. Il y a 10 ans, au lancement de la loi Copé-Zimmermann, vous fournissiez des femmes pour les conseils d'administration. Venez vous voir pour que vous donniez des noms. Vous aviez même fait un catalogue de noms. On en est toujours là aujourd'hui où les entreprises arrivent seules à trouver des femmes.
Alors oui, on avait constitué une base de données. On n'était pas fournisseur de femmes. Ça, c'est un mot quand même
ça, c'est
étonnant.
Moi qui
oui, je sais, on en a parlé tout à l'heure. Oui, on avait 1000 Françaises à proposer et 7000 étrangères. Mais il ne faut pas croire que pour autant, le téléphone sonnait tout le temps pour me les demander. Il fallait aller chercher les mandats, le mort aux dents. Et aujourd'hui, le SBF 120 a bien, bien répondu à cette demande. Mais la loi Copé-Zimmermann touche toutes les autres sociétés cotées, sauf Euronext Growth et les SA, et elles sont plutôt plus près de 24 à 28% que des 40. Donc il y a encore un chemin à parcourir du côté des conseils d'administration.
Et là, il faut convaincre. Il faut convaincre de l'intérêt d'avoir des femmes à des postes exécutifs. La loi ne suffit pas.
Il y a la loi. Il y a la RSE, et puis il y a ce monde moderne quand même qui nous tend les mains, et quand même une intelligence masculine qui commence à conscientiser qu'on ne peut plus fonctionner qu'avec des hommes, pour un monde d'hommes. Il faut évidemment avoir la parité dans les conseils d'administration. Dans les COMEX, il y a une loi qui est passée à l'Assemblée nationale. On attend que le Sénat adoube cette très bonne initiative. Il faut des femmes dans les CODIR, il en faut partout.
Il y a encore quelques années, on faisait des papiers pour convaincre qu'une société dirigée par une femme, ça fonctionne. Ça ne met pas la clé sous la porte. Il faut toujours expliquer que la femme est compétente. On en est toujours là ou désormais on a suffisamment d'exemples pour que ça soit de fait.
Je vais vous faire une réponse de Normand. C'est un peu oui, un peu non. J'ai un exemple à vous donner, c'est que les femmes entrepreneurs qui donc veulent créer leur société ont bien plus de difficultés à lever des fonds auprès des investisseurs que les hommes. Alors que celles qui réussissent à lever des fonds ont des résultats spectaculaires. Donc il y a un véritable paradoxe là.
Donc pour vous, il y a toujours un sujet de reconnaissance du travail de la femme. Est-ce que le plafond de verre existe toujours aussi ?
Il y a deux plafonds de verre. Il y a le plafond de verre du conseil d'administration et il y a le deuxième plafond de verre du comité exécutif. Puisqu'on le voit dans des pays où les conseils d'administration sont féminisés, dans le pays du Nord, ce n'est pas pour autant que c'est descendu en verticale vers le fameux pouvoir opérationnel que nous n'avons pas, nous les femmes.
Donc ce sont tous les managers intermédiaires, toutes les décisions qu'on ne voit pas forcément. Et pourtant, le vivier arrive. Il y a toute une génération de femmes aujourd'hui formées qui aspirent à prendre le pouvoir est un grand mot, mais en tout cas à prendre des responsabilités.
Mais évidemment, il y a des femmes qui sont à la porte, qui ne demandent que ça. Alors pour les comités exécutifs, souvent ils vont pas les prendre à l'extérieur, ils les font monter de l'intérieur. C'est pour cette raison qu'en ce moment, avec justement ce phénomène de vouloir avoir des femmes dans les commerces, en fait, puis ces projets de loi qui quand même interpellent, il y a des programmes de formation qui sont mis en place, et puis ces femmes vont être envoyées dans des pays étrangers, à des directions de filiales, parce que c'est quand même, il faut être très 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 capé pour rejoindre un COMEX aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire que les femmes n'en sont pas capables, loin de là. Mais ça s'anticipe. Donc ça ne va pas pouvoir se faire du jour au lendemain pour un grand nombre d'entreprises, surtout dans l'industrie. Mais enfin, nous pouvons...
Le DRH de L'Oréal dit que c'est une génération qui met... si aujourd'hui il arrive à un résultat d'égalité dans son COMEX, c'est parce qu'il a mis 25 ans à faire monter des femmes.
Bah, s'il le dit, il faut le croire, parce que L'Oréal est quand même un bon exemple en la matière. Je pense que ça dépend de la taille des entreprises. Il y a des entreprises où ça va peut-être...
Si on commence maintenant, ça va quand même prendre du temps. Quoi.
Oui, mais alors c'est pour ça qu'il faut
c'est partir, pour ça qu'il faut une loi.
Oui, il faut y aller très très vite.
Qu'est-ce que vous répondez aux hommes qui sont effrayés par la question de la politique des quotas, qui disent on remplace des hommes compétents par des femmes, juste parce qu'elles sont femmes?
Ouais, alors là, je dis que c'est du grand n'importe quoi. Je dis que ce qui est du grand n'importe quoi aujourd'hui et du non-modernisme, c'est justement se passer des femmes. Se passer de 52% de la population, ce sont les femmes qui consomment, ce sont des femmes qui sont de plus en plus diplômées, plus que les hommes dans certaines écoles. Donc ces hommes, c'est eux qui ont peur pour eux-mêmes. Et là, ils sont pas du tout dans la bonne réflexion.
Comment on fait pour les embarquer dans ce combat-là?
Ah, ben ça, c'est mon grand sujet. Pour les embarquer, il faut les rassembler autour de nous. Parce que je dis souvent que nous, les femmes, nous n'irons nulle part sans eux. Ils ont le pouvoir. Mais ils n'iront pas plus loin sans nous, et il est grand temps que nous fassions ensemble pour de la performance.
Mais qu'est-ce qu'il faut leur dire? Qu'on ne veut pas les remplacer et qu'on veut être à leur côté?
Mais c'est tout à fait. Mais comme dans un couple avec une famille et des enfants, c'est quand même mieux quand il y a papa et maman et les enfants. Mais une société, c'est la même chose. Il faut des femmes et des hommes. Et puis maintenant, dans la RSE, il faut aussi des personnes de cultures différentes, ce qu'on appelle la diversité. Toutes ces pensées différentes qui font la richesse de solutions trouvées.
On voit beaucoup de formations se créer sur la question du salaire, de coaching des femmes, comme si en tant que femme on ne savait pas se défendre dans un entretien d'embauche. Vous dites oui, c'est une bonne chose, tout est bon à prendre, vous dites non, on n'est pas des petits chatons qu'il faut sans arrêt coacher, quoi.
Alors,
moi, je vous le dis, je suis tiraillée. Entre les deux, je n'arrive pas à trancher.
Mais en fait, par rapport aux questions d'argent, fort est de constater que nous, les femmes, on n'a aucune difficulté à demander de l'argent pour notre employeur, pour négocier des contrats. Ça, c'est pas du tout un problème.
En revanche, quand
c'est pour soi. Et alors, on m'a dit l'autre jour quelque chose qui a vraiment fait résonance et qui fait résonance, vous allez voir, si vous n'avez jamais entendu ça, ça va faire résonance en vous aujourd'hui. Dans notre inconscient collectif, nous, féminins, transgénérationnels, les premières femmes qui ont demandé de l'argent aux hommes étaient les prostituées. Et quelque part, quand une femme demande une augmentation ou demande de l'argent pour un projet à son employeur, y a cette mémoire qui revient. Et
c'est terrible.
Ben oui, mais c'est pour ça qu'il faut le dire, l'exprimer pour justement finalement se rendre compte que ce n'est qu'une mémoire et qu'il faut avoir l'audace de demander de l'argent.
Donc du coaching, pourquoi pas?
Il n'y a pas besoin de 10 heures de coaching pour apprendre à négocier. Il suffit de donner quelques petites clés comme ça et tout va bien.
Il faut demander des sous et des augmentations et valoriser son propre travail. Ça, c'est essentiel. C'est le conseil féministe de la journée. Merci beaucoup, Lucile Desjonquière, d'avoir été avec nous. On va parler de glace d'or.
BFM Business. Happy Boulot, le mag. Business Case.
Quel est le meilleur indicateur pour savoir si vous êtes une bonne entreprise? Il y en a beaucoup, il y a Top Employer, il y a Great Place to Work, il y a même le label B Corp sur la raison d'être. Puis il y en a plein, il existe beaucoup de labels. Qui croire? Qui regarder? On est avec Marc Brua, Managing Director chez Squad. Alors Squad, c'est une boîte de consultants. Et alors vous affichez carrément sur votre homepage de votre entreprise votre notation à Glassdoor. Vous avez 4,7 sur 5. Vous en faites la promotion. Glassdoor, pour vous, c'est utile?
Ah, c'est vraiment utile, oui. Alors, c'est utile, en fait, il faut resituer dans notre contexte. Nous, on est sur un marché, en fait, qui est booming, comme on dit. Là, il y a une forte demande, en fait, dans les domaines de la cybersécurité. C'est notre domaine de prédilection. Et donc, on est face à une pénurie de profils. On parle aujourd'hui d'à peu près 10 000 postes vacants en France. Donc, le fait de pouvoir afficher, en fait, qu'on est une société qui est bien jugée par ses employés ou par ses candidats, parce qu'en fait, vous avez les deux possibilités sur Glassdoor, ça participe, en tout cas, à améliorer nos performances en matière de recrutement.
Il y a même un fonds d'investissement.
Exact.
Qui s'est intéressé à vous, qui a regardé votre notation Glassdoor.
C'est vrai. En fin d'année, en fait, on a fait un fonds d'investissement est rentré au capital de Squad, en fait. Et j'étais étonné de voir dans les tours, en fait, avec les fonds d'investissement, que la plupart, en fait, sortaient un classement Glassdoor des sociétés comparables. Et du reste, on était extrêmement bien placés. Et donc, ça les intéresse aussi.
Donc, c'est une notation extra-financière qui compte.
Oui, parce que je pense qu'elle est garante aussi d'un turnover qui est faible dans un marché comme le nôtre, aussi volatile, aussi pénurique. Il faut être capable de garantir un turnover qui est assez faible, relativement faible. Et le fait qu'on soit bien noté par nos employés donne une bonne indication de ce turnover.
Alors après un entretien, vous faites quoi? Vous faites comme les restaurants avec TripAdvisor, vous demandez à ce qu'on vous mette une petite notation sur Glassdoor?
Eh ben oui, non, c'est vrai, on le demande en fait pour une raison simple, c'est qu'on se rend compte qu'on recrute moins de 4% des gens qu'on rencontre en entretien. Non seulement...
Vous faites beaucoup d'entretiens qui servent à rien, alors?
Beaucoup d'entretiens. Ben, en fait, oui et non, parce que d'abord, on n'est pas les seuls, en fait, à rechercher les mêmes profils. Ouais. Donc, on est en compétition. C'est pas forcément nous qui sélectionnons. Aujourd'hui, les candidats sélectionnent pratiquement tout autant.
10 000 postes vacants.
Voilà. Ouais. Donc, on fait beaucoup d'entretiens qui servent à rien. Vous avez raison.
Et vous leur dites, allez débriefer l'entretien sur Glassdoor?
Ben oui, la réponse est négative de la part du candidat ou de notre part, on leur demande effectivement de communiquer s'ils le souhaitent sur la qualité de l'entretien. Moi, je suis convaincu qu'en fait, la cybersécurité, c'est un petit marché et on va se recroiser, en fait. Donc, il est important aussi pour nous de pouvoir monitorer la qualité des entretiens qu'on fait.
Alors, qu'est-ce que vous faites si un candidat met sur Glassdoor qu'il a été mal reçu, l'entretien s'est pas bien passé? Vous virez tout de suite
Ouais, mais exactement. Non, pas du tout. Non,
avec mais
on regarde ça. Ce qu'on regarde, on a eu un cas qui est assez intéressant, je pense, c'est plutôt là un employé. On a eu il n'y a pas très longtemps une mauvaise note, je crois 2 sur 5, c'est carrément mauvais. Hein. Mmh. Et en fait, c'était un ex-employé qui avait quitté la société et assez insatisfait, en fait, de la façon dont il avait été traité, notamment sur un point précis qui était son entretien annuel. Donc, c'est souvent le moment où on discute rémunération, notamment. Et on a cherché à comprendre, en fait, qu'est-ce qui avait coincé. On s'est rendu compte d'abord que le document d'entretien, il méritait d'être largement amélioré. Et surtout, plus que ça encore, on s'est rendu compte que les jeunes managers à qui on demandait de faire passer des entretiens, à parfois des consultants très confirmés, 10 ans, 15 ans d'expérience, avaient besoin d'être accompagnés. Donc il y avait vraiment une petite carence, un petit défaut dans notre process qu'on a amélioré. Donc au moins, cette mauvaise note aura servi à ça, quoi.
Donc il avait raison de donner son mécontentement.
Il avait raison. Alors il a fait bien descendre la moyenne, parce qu'en fait, un avis négatif fait descendre de 0,10 pratiquement votre moyenne.
Donc vous voyez, il vous faut une masse, vigilants. Sinon...
Exactement. Mais ceci dit, c'était un bon signal d'alerte pour nous, puisque ça nous a permis de lever en fait un vrai dysfonctionnement, c'est peut-être exagéré, mais en tout cas un vrai problème chez nous.
Comment vous pouvez être sûr que les commentaires sont vrais? Vous êtes dans un marché concurrentiel, pourquoi pas aller raconter n'importe quoi sur le concurrent d'à côté?
Ouais. Je connais pas exactement les process de Glassdoor pour éviter ça, mais effectivement, je pense que de toute façon, il doit y avoir des possibilités. On n'a pas d'avis qui viendrait de concurrents, qui ferait du dénigrement, et évidemment, ça donne pas non plus à ça. Donc, je suis assez convaincu sur les avis.
L'image de votre entreprise, un peu cool, quand on va voir votre site internet, c'est un peu l'impression qu'on a. Il y a des animaux, il y a la notation Glassdoor. C'est ultra important pour vous, c'est fondamental.
C'est ultra important parce que c'est vraiment le... Nous, notre difficulté, ça peut paraître un petit peu prétentieux, mais en fait, notre difficulté aujourd'hui, elle n'est pas dans le fait de capter de nouveaux marchés ou de nouveaux clients. Alors, on en a besoin toujours de nouveaux. La vraie difficulté, c'est d'avoir les ressources pour travailler sur les projets qu'on nous confie. On prévoit 300 recrutements cette année, on en a réalisé déjà 120. On voit que les 180 à venir vont être très compliqués à faire. On va y arriver, mais ça va être difficile. Donc, tout ce qui peut participer à améliorer l'image de la société, et effectivement, le site un peu fun avec les animaux, y participe, est très utile. Quoi.
Et c'est quoi l'autre argument? C'est le salaire pour faire monter?
Le salaire, mais je pense que...
Vous êtes là dans une surenchère?
Oui, il y a une surenchère de salaire, ça c'est sûr. Néanmoins, c'est pas le seul sujet. Je pense qu'il y a un vrai sujet, en fait, ça peut paraître un peu bateau, mais d'accompagnement. C'est-à-dire que l'informatique, l'IT et la cyber n'y échappent pas. On est sur des sujets qui évoluent très vite. Donc une société qui vous formerait pas, c'est à peu près la garantie que dans 3-4 ans, vous êtes obsolète et complètement décorrélé de votre marché. Donc nous, notre engagement, il est quand même vraiment là. C'est de garantir que nos consultants restent toujours au top de ce qui se fait en cyber.
La formation en continu.
En formation en continu. Donc ça, c'est vraiment...
Venez chez nous, c'est plus cool que chez Altran.
En tout cas, c'est plus spécialisé que chez Altran, en l'occurrence, parce que nous, Altran, on travaille sur plein de sujets dans l'IT. Nous, on est vraiment que sur la cyber.
Merci beaucoup Marc Bruat d'être venu nous voir. Vous nous direz si après Happy Boulot Le Mag, vous avez eu des tonnes de CV et si ça a fonctionné. Hein.
J'espère.
Je vais aller regarder ma propre note sur Glassdoor. Verra si je suis.
Merci beaucoup.
Merci, c'est la fin d'Happy Boulot Le Mag. On se retrouve la semaine prochaine sur BFM Business. Je vous souhaite un excellent week-end.
BFM Business, Happy Boulot Le Mag. L'émission qui vous sort de votre boîte.